Ah tiens, regarde, écoute, je vais essayer un nouveau slogan et tu me dis ce que t'en penses. Prendre encore plus de plaisir tout en gardant la ligne avec hypnose et chocolat. C'est pas mal, non? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique Hypnose et chocolat. Je m'appelle Robin Mermet et je suis praticien en hypnose à Paris 9e. Et je vais vous accompagner au fil de ces podcasts à trouver un ensemble de solutions pour pouvoir profiter encore plus du chocolat tout en gardant la ligne. Grâce à l'hypnose et à la communication avec notre inconscient afin de mieux gérer nos émotions négatives qui peuvent avoir tendance à nous faire manger plus que de raison. Si vous souhaitez avoir accès à tous les épisodes ou même me poser des questions, vous pouvez aller sur le site internet hypnoseetchocolat.fr. Alors, dans cet épisode numéro 3, nous allons parler des émotions, comme dans le précédent podcast, mais nous allons aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Réfléchissez quelques instants. Qu'est-ce qui vous donne envie de manger du chocolat? Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? Qu'est-ce qui vous passe par le corps? À quel moment vous vous dites « j'ai bien envie de me faire un morceau de chocolat ». Alors pour beaucoup de personnes, ça va être « j'ai envie de morceau de chocolat à la fin du repas » ou « je vais avoir l'idée ou l'image du chocolat qui va me dire à l'esprit » ou « je vais avoir le goût qui va venir en bouche » et remarquez peut-être même que en mentionnant le goût en bouche, vous allez commencer à saliver. Et comme quoi, le chocolat a tendance à vous générer un état d'hypnose, un état... Alors qu'il n'est même pas là, ça vous donne envie d'en manger. Même, ça peut être le ventre qui s'anime. Bref, à tous les endroits du corps, ça peut commencer à s'animer. Mais l'idée, c'est que si vous prenez conscience de ça, du mécanisme de comment est-ce que ça se passe chez vous, eh bien, à ce moment-là, ce sera plus simple pour vous de le stopper. Il semblerait que 5 à 10% des personnes seulement soient capables de savoir ce qui se passe dans leur corps. On a un problème en France, c'est qu'il y a un problème de méconnaissance de nos émotions, de ce qui se passe dans notre corps. On a tendance à mettre très en valeur les mathématiques et tout ce qui est très rationnel et très cartésien à l'école, mais les émotions ont tendance à prendre le pas sur nous, sur beaucoup de situations, surtout quand il s'agit de manger. Donc cette question, je vous la pose, elle est très importante. Qu'est-ce qui vous donne envie de manger du chocolat? Prenez une feuille, prenez le temps de gribouiller certaines choses avant de continuer ce podcast pour remarquer ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de personnes, et vous l'avez peut-être pris en compte lors du précédent podcast, ça peut être du stress, de la colère, de la culpabilité, ça peut être tout un tas de choses. Et donc du coup... Le chocolat permet de penser à autre chose, ou il permet de se rappeler des moments agréables qu'on avait en famille, des moments festifs. Ça peut vous rappeler tout un tas de souvenirs. Il y a même des personnes à qui ça les renvoie vers la ville de leur enfance, la maison de leur enfance. Et là où je veux en venir, c'est que vous allez avoir tendance à vouloir gérer les envies de chocolat par la fin du problème. C'est-à-dire que vous allez vous peser tous les jours, et vous dire, ah, est-ce que j'ai pris du poids? Ah, j'ai pris du poids, donc il faut que j'arrête de manger aujourd'hui, donc je vais générer de la culpabilité, et c'est là où je veux en venir, sur ma gestion des émotions. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, il faut pas que je mange, et donc c'est la volonté, c'est le cartésianisme qui va essayer de contrôler cette envie de manger du chocolat, mais ça passe pas du tout comme ça. C'est pas votre tête qui décide ce que vous mangez ou ce que vous mangez pas. C'est plutôt vos envies, ce qui se passe dans le ventre ou ce qui se passe dans le cœur, ça va dépendre des choses. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous allez avoir la mauvaise stratégie. Mais alors quand vous allez commencer à manger, et qu'il ne fallait pas manger, vous allez avoir de la culpabilité. Oh, j'aurais pas dû manger ça, puis ça va vous prendre la tête, et vous allez y penser souvent. A contrario, si vous ne mangez pas ce que vous auriez aimé manger, vous allez y penser tout le temps. Et en gros, le chocolat va vous obséder. Tellement qu'il va vous obséder qu'il y a un moment où vous allez craquer. Et les personnes minces, justement, ne pensent pas. Elles ont envie de manger un truc. Enfin, elles le mangent ou elles ne le mangent pas, mais elles se font plaisir. Et la culpabilité, souvent, vous l'entretenez avec plein de choses. Donc il y a ce mécanisme de contrôle que vous mettez en place, que je viens de citer. Et puis après, il y a aussi la balance. La fameuse balance, ce fameux pèse-personne, qui a tendance à vous donner une envie de manger ou de pas manger, indirectement. Qui a tendance à vous faire culpabiliser, qui a tendance à vous amplifier ou réduire vos émotions. Ah, j'ai perdu du poids aujourd'hui. Ah, je suis content, je suis heureuse. Mes initiatives sont couronnées de succès. Je fais du sport, ça paye. Ou j'ai fait attention à ma ligne, ça paye, c'est super. Ou je suis parti en vacances et j'ai perdu du poids, je sais pas trop comment j'ai fait, mais c'est cool. Ah, ça me donne envie et je vais aller continuer mes efforts et je vais faire du sport. Ou au contraire, oh putain. Oh, j'ai pris du poids. Oh là là là, c'est pas possible. Ah, faut que je. Je sais plus quoi faire, je suis démoralisé, je vais arrêter le sport, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, etc. Et donc, vous êtes en train de vous apercevoir que la balance, votre pèse-personne et le chiffre qui s'affiche sur votre balance, a tendance à déterminer votre motivation, à déterminer vos émotions. Est-ce que vous allez être apathique? Est-ce que vous allez être triste? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez être heureux ou heureuse? Et c'est là où on a tendance à dire, la balance, vous la mettez à la poubelle. Ou la balance, vous la mettez dans un coin, vous la cachez, vous ne pesez pas tous les jours, vous ne pesez même pas toutes les semaines, en fait, vous ne pesez pas du tout, vous ne pesez pas au moins pendant quelques semaines, voire quelques mois, mais vous faites une photo de vous. Vous faites une photo de vous en sous-vêtements, de face, de côté. Alors, je sais que l'exercice peut paraître un petit peu difficile, mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez prendre des photos de vous et vous allez pouvoir comparer votre physique, votre énergie, votre bonhomie. Vous allez pouvoir voir si vous êtes heureux, est-ce que vous êtes un peu mieux sur chaque photo, et voir si votre physique change, vos joues se creusent au fur et à mesure du temps. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, le sport fait grossir. Alors, les gens me disent, quoi, le sport, ça fait pas grossir, ça fait maigrir, Robin, raconte pas de bêtises. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Le sport peut faire grossir dans le sens où si vous remettez au sport, eh bien, vous allez gagner de la masse musculaire. La masse musculaire prend... Regardez sur internet l'espace que prend le muscle et la graisse. En général, vous allez voir que le muscle prend à peu près deux fois moins de place que la graisse. Ce qui fait que du coup, votre poids peut stagner avec le sport. Vous allez prendre de la masse musculaire, mais votre chiffre sur la balance, il reste sur place. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut continuer les efforts, même si la balance ne va pas dans le sens que vous voulez. Le sport vous permet donc de maigrir en masse graisseuse, mais vous fait grandir en masse musculaire. Même si vous avez une balance, un impédance-mètre qui est capable de mesurer tout ça, etc., vous prenez pas la tête tout ça parce que vous restez dans le contrôle de vos émotions avec un chiffre. Et ça ne se fait pas. On ne gère pas notre poids avec notre tête, on le fait avec notre ressenti, notre envie, notre dynamisme. Donc votre pèse-personne, vous le rangez, vous ne vous posez plus pendant longtemps. Vous pouvez demander aux gens de regarder le chiffre, mais... ça risque de vous casser tellement le moral que c'est même pas la peine. Et ça risquerait même de vous engendrer de la culpabilité. Donc ce qu'on citait tout à l'heure, qui est source d'échec. L'autre mécanisme d'échec, c'est le jugement envers vous-même. Oh, je suis trop grosse. Oh, je suis trop moche. Ah, non, je suis nul, je suis pas bien. Tellement que faut pas que je sorte au restaurant, parce que je risquerais de craquer devant les profiteroles au chocolat, devant le... cheesecake au chocolat, je sais pas si ça existe cette recette, mais enfin je viens de l'inventer, c'est génial, devant le brownie, ou non mais je vais trop grosse, et puis les gens vont commencer à me critiquer en me disant, bah non mais pourquoi est-ce que tu manges ça, tu devrais pas, t'as vu ton poids, tu devrais manger une petite salade, tu devrais pas prendre de dessert, tu devrais, non mais attendez, vous imaginez comment le jugement que vous imaginez que les autres ont envers vous-même vous démoralise, vous culpabilise, et fait qu'en fait, vous n'avez pas envie de manger ou que vous avez envie de trop manger pour compenser. Bref, vous avez tendance à vous raconter beaucoup de choses, à vous juger, et ça ne vous aide pas du tout. Ça, le jugement que vous imaginez que les autres ont, hein, parce qu'en général, si vous demandez aux autres ce que vous devriez manger, ou est-ce que ça les choque que vous preniez un dessert, du chocolat en fin de repas alors que vous avez des kilos en trop, il y a beaucoup de gens qui vous répondraient de manière... soit ils diraient... j'en ai rien à faire, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. La personne a tendance à vous dire tu devrais pas manger ceci ou cela, bah, c'est tendance à être vos très très proches, peut-être votre mère ou votre belle-mère qui fait des régimes elle-même et qui n'y arrive pas, ou qui vous impose un régime qu'elle-même elle n'arrive pas à tenir. Bref, dans tous les cas, c'est un échec. Puis il y a même des gens qui vous diront bah, écoute, fais-toi plaisir, pourquoi tu mangerais pas, je veux dire, on n'a qu'une vie, c'est pas un problème. Donc, vous vous basez sur le regard des autres, et ça ne vous aide pas. Et en plus, c'est même faux, parce que vous avez tendance à penser que vous pouvez lire les pensées des autres, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout. Donc, osez poser la question aux alentours, aux gens autour de vous, pendant que vous mangez, pendant que vous vous culpabilisez, parce que ça va bien dézinguer le jugement à l'intérieur de vous, pour montrer au jugement à l'intérieur de vous qu'en fait, elle n'a aucune source, aucun intérêt, ce jugement. Il y a même certaines personnes qui pourraient se poser la question, la voix du jugement dans votre tête, c'est la voix de qui ? Est-ce que c'est la voix de quelqu'un que vous connaissez ? Est-ce que c'est votre voix à vous, ou c'est la voix de quelqu'un que vous entourez ? Est-ce que la voix, elle parle de façon aiguë, grave, de façon... Remarquez comment la voix génère un impact et une émotion sur vous. Forcément, si la voix vous dit « T'as vu comment t'es grosse ?» Mais tu peux pas, même pas rentrer dans ton pantalon, ton jean que t'avais il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Non, mais t'es sérieuse là ? Tu peux pas grossir comme une baleine ? Forcément, cette voix va avoir beaucoup plus d'impact que si au contraire, cette voix vous disait « Non mais, tu t'es vu là ? Oh, on dirait une baleine ! Oh, attends, tu rigoles !» Alors, dans tous les cas, ce sont des propos qui sont pas très agréables. Et vous avez même droit de changer les propos. Vous dire « Non mais, c'est bien ce que tu fais. Sois motivé, garde du courage. Tu vas y arriver, d'accord, ok, il y a des moments de bas, mais c'est pas grave, l'idée c'est de voir ça sur long terme, et t'as la dynamique, t'as la motivation. » Les propos sont pas les mêmes déjà, et la voix n'est pas la même. La voix vous encourage. Et remarquez comment vous pourriez vous dire dans votre tête, avec de l'encouragement, certains propos, et ça pourrait vous aider. Ça me fait penser au fait que vous pourriez mettre sur des post-it des phrases positives et agréables. Remarquez aussi comment, entre les deux phrases, j'ai utilisé des phrases positives qui orientent vers le futur, en disant « tu vas y arriver, ok, aujourd'hui c'est pas forcément au top, mais tu vas avancer ». Et j'introduis du coup une notion d'espace-temps qui est long. Je demande pas à ce que je perde du poids ou tu perdes du poids maintenant, tout de suite, dans les 24 heures, parce que ce n'est pas faisable, mais plutôt je soutiens l'initiative et le mouvement et l'intention sur le long terme. Et en plus là-dessus, j'utilise des encouragements positifs. Je ne suis pas en train de dire « il faut que tu arrêtes de manger » avec du négatif, parce que votre cerveau n'entend pas ce qui est négatif. Vous pouvez même ne pas imaginer l'éléphant rose. Pour beaucoup de personnes, vous allez imaginer cet éléphant rose. Donc le négatif ne marche pas au niveau de votre cerveau. Alors au contraire, prenez des phrases positives, des phrases qui donnent envie, qui soutiennent, et pas des phrases qui seraient des « je dois », des « obligations », qui sont des choses qui viennent du cerveau et du cartésien et qui ne soutiennent pas et qui ne permettent pas de rêver et d'avoir un espoir de quelque chose de plus positif de demain. Parce que vous êtes déjà bien dans la culpabilité, bien dans le jugement, et ce jugement et cette culpabilité a tendance à vous casser le moral, alors que nous, on essaie de vous entretenir à un moral positif pour pouvoir avancer, pour éviter d'avoir de la frustration derrière, de la tristesse, du stress, de la colère, pour éviter de réalimenter votre système. Donc voilà, je vais reciter. Pensez à remarquer les émotions que ça vous génère quand vous devez manger ou vous devez maigrir, le ton que vous utilisez, et les formulations de phrases. Voilà, on est sur ces 3 points-là. Vous pouvez les noter sur une feuille pour changer progressivement tout ça, qui va permettre de changer un peu le vinyle, un peu le disque qui se joue dans votre tête et qui a tendance à vous casser votre morale. Voilà, c'est tout bon pour cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le dire sur le site internet hypnoseetchocolat.fr, dans les commentaires, ou même vous pouvez me poser des questions pour avoir plus de détails. Par ailleurs, si vous pensez que cet épisode peut être intéressant pour des gens autour de vous, pensez à leur partager pour me soutenir.